Plantons un peu le décor pour commencer. C'est le matin, il pleut à verse, on est super en retard.
Ouais, l'enfer classique du matin, quoi, le stress absolu.
Grave, l'enfer. Du coup, on a un sac qui glisse d'une main, un manteau trempé dans l'autre, et on arrive enfin devant l'entrée d'un bâtiment sécurisé. On tape un code hyper compliqué, on pousse cette espèce de lourde porte d'entrée, et là, juste dans notre dos, il y a une autre personne qui arrive.
Avec l'air tout aussi pressé, j'imagine.
Exactement. Et le réflexe, genre le tout premier instinct humain absolument viscéral et universel, bah c'est de retenir cette porte avec le pied ou l'épaule.
Ah bah oui, on fait ce qu'on peut pour pas que ça claque.
C'est ça. On attend l'autre personne, on échange un petit sourire de connivence. En fait, c'est le summum de la politesse, c'est la base absolue du savoir-vivre en société.
Complètement.
Mais alors, que se passe-t-il quand ce petit acte de courtoisie si banal, si fondamentalement humain, met en réalité des vies en danger?
C'est un point de départ qui illustre vraiment parfaitement le cœur de notre sujet d'aujourd'hui.
Parce que c'est un vrai paradoxe.
Ouais, c'est cette friction permanente entre nos automatismes sociaux qui visent l'harmonie et la sécurité pure et dure, qui exige de la rigueur implacable.
Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Notre exploration se base sur une étude de cas vraiment fascinante qui a eu lieu en Savoie.
Une étude très spécifique, oui.
Voilà. On se penche sur le travail d'une société de design graphique qui s'appelle Kaleidolink. Et leur mission, bah, c'était de créer une affiche de sensibilisation pour une crèche locale.
Ce qui paraît simple sur le papier.
Ce qui paraît hyper simple. Mais l'objectif de notre analyse, c'est de comprendre comment le design, c'est-à-dire de simples formes, des mots, des couleurs, sur un bout de mur, peut carrément reprogrammer un comportement quotidien potentiellement dangereux.
Et surtout, comment transformer une contrainte administrative super agaçante en un acte de protection collective?
Le tout sans froisser l'ego de personne, parce que c'est ça le défi.
Tout à fait. Et pour bien saisir la portée de ce cas, il faut oublier le mot affiche un instant.
D'accord, on l'appelle comment alors?
Ce que l'agence a accroché au mur de cette crèche, c'est pas de la décoration. C'est pas non plus un simple rappel administratif de la direction.
Oui.
C'est un véritable outil de psychologie comportementale, un genre de hack psychologique conçu pour déjouer une habitude très ancrée.
Alors, avant même de regarder comment cette affiche est construite visuellement, parlons un peu du terrain, du comportement exact que la crèche essayait désespérément de corriger.
On en revient à cette fameuse porte.
Exactement. Les documents décrivent une scène que l'équipe observait tous les jours, matin et soir. Un véritable ballet de parents pleins de bonnes intentions, hein, qui se tenaient la porte les uns pour les autres.
Ce qui part d'un bon sentiment.
Complètement. Le problème, c'est qu'en faisant ce geste super bienveillant, bah, ils détruisaient intégralement le protocole de sécurité du bâtiment.
Ouais, parce que la règle imposée par la crèche était binaire, et surtout sans équivoque.
C'était quoi la règle exacte?
Chaque personne autorisée à pénétrer dans l'établissement doit composer son propre code d'accès, et ça de manière individuelle.
Et si quelqu'un n'a pas le code ou l'a oublié?
Dans ce cas, cette personne doit impérativement utiliser la sonnette. La mécanique derrière ça, elle est simple. Ça permet à l'équipe, qui est à l'intérieur, de vérifier visuellement l'identité de l'individu avant de déverrouiller.
Donc, dès l'instant où on maintient la porte ouverte pour un inconnu, ou même pour le parent du petit Léo qu'on a croisé hier, on annule physiquement cette barrière.
C'est exactement ça. La barrière n'existe plus.
Je vais me faire un peu l'avocat du diable deux secondes. On parle d'une crèche de quartier, tu vois, c'est pas une base militaire ultra secrète.
C'est ce que beaucoup pensent.
Bah oui, on pourrait se dire, franchement, ce sont juste d'autres parents avec des poussettes qui voudraient s'infiltrer là-dedans.
Sauf que la réalité est bien plus sombre.
Voilà. Les sources détaillent très clairement les enjeux réels, et franchement, ça fait froid dans le dos.
Ah oui, c'est pas juste de l'administratif.
Mais pas du tout. La direction doit gérer des situations hyper complexes. On parle de mesures judiciaires, de décisions de garde parentale extrêmement conflictuelles.
Et des mesures d'éloignement strictes prononcées par des juges.
Exact. Sans parler du risque pur et simple d'intrusion extérieure par des personnes malveillantes. C'est pas de la paranoïa, c'est littéralement la protection physique des enfants.
Et c'est précisément là que la biologie évolutive entre en collision frontale avec la sécurité moderne.
Ah ouais? Comment ça?
Le cerveau humain, il est programmé depuis des millénaires pour privilégier l'harmonie sociale immédiate au sein de la tribu, du groupe.
D'accord. Donc, ne pas faire de vagues.
Voilà. Quand on a une personne face à soi, qui sourit, qui attend de passer avec son enfant, le cerveau perçoit un humain inoffensif.
Ouais. Notre cerveau se dit « c'est bon, il a l'air sympa ».
Exactement. Le risque d'une intrusion malveillante ou d'un conflit de garde violent, lui, il est complètement abstrait pour le cerveau. Il est lointain.
Alors que le fait de claquer la porte au nez de quelqu'un.
Ah ça, le malaise social fulgurant de fermer une porte au nez d'un autre parent, ça c'est perçu par notre cerveau comme un danger immédiat d'exclusion sociale.
C'est dingue quand on y pense. C'est exactement le même principe dans le monde de l'entreprise d'ailleurs.
Avec les badges d'accès, oui.
Ouais, on connaît tous le problème du tailgating, ce fameux phénomène où on badge pour accéder au bureau et hop, quelqu'un se glisse juste derrière nous.
Et on dit rien.
Jamais. Les boîtes dépensent des dizaines de milliers d'euros en système de sécurité et pourtant, psychologiquement, c'est une torture de se retourner vers un collègue, de le regarder dans les yeux et de dire « Non, je te ferme la porte au nez, badge toi-même ».
C'est presque impossible à faire sans se sentir hyper mal.
Mais pourquoi c'est si douloureux d'assumer la sécurité jusqu'au bout?
Parce que, en fait, cela enfreint un contrat social tacite de confiance mutuelle.
Un contrat social?
Ouais. Refuser de tenir la porte, c'est interprété par l'autre comme une agression passive. C'est un message non-verbal qui hurle « je me méfie de toi, je te considère comme une menace potentielle ».
Ah ouais, vu comme ça.
Et dans un environnement comme une crèche, c'est d'autant plus difficile. Les parents cherchent à s'intégrer, à appartenir à une communauté soudée et bienveillante autour des enfants.
C'est sûr que personne n'a envie de passer pour le parent parano ou complètement asocial qui claque la porte aux autres à 8 heures du mat.
Voilà. Les menaces réelles, les drames familiaux, tout ça c'est invisible. Le sourire du parent derrière la vitre, lui, est bien visible. Du coup, l'instinct de courtoisie gagne presque à chaque fois.
Ce qui nous amène au défi colossal de l'agence de design Calédolink.
Oui, parce que le problème ne vient pas de gens malveillants.
Exactement, il vient de gens qui veulent bien faire.
Ouais.
Et moi je me dis, si je suis la direction de la crèche, mon premier réflexe face à un danger pareil, bah, ce serait de mettre une immense affiche jaune fluo.
Avec un gros panneau danger.
Grave, hein. Un truc écrit en majuscule énorme. Danger, interdiction formelle de tenir la porte, sécurité en jeu.
C'est le réflexe classique de la plupart des institutions.
Bah oui. Mais les documents montrent que l'agence a pris le chemin inverse. Ils ont choisi une approche purement pédagogique. Aucune injonction brutale.
Et c'est brillant.
Mais attends, si le risque est si grave, pourquoi on prend des pincettes? Pourquoi ménager les sensibilités? Un message super agressif, ce serait pas plus efficace pour créer un électrochoc?
C'est une super question et franchement, c'est l'erreur numéro un en communication de crise. L'électrochoc, il fonctionne sur le court terme pour un danger physique immédiat.
Genre une alarme incendie.
Exactement. Si elle feut, tu cries. Mais pour modifier une habitude sociale quotidienne et sur le long terme, la communication agressive crée ce qu'on appelle en psychologie la réactance.
La réactance, c'est quoi au juste?
En gros, si le parent se sent agressé, infantilisé ou traité comme un suspect potentiel dès qu'il dépose son enfant, il va se braquer.
Il va juste rejeter le message en bloc.
Voilà. Le panneau menaçant crée de la friction avec la nature même de la crèche qui est censée être un lieu chaleureux d'accueil.
Ah oui, c'est vrai que lieu d'accueil bienveillant et affiche danger ne pas entrer, ça colle pas trop.
Pas du tout. L'objectif n'était donc pas de donner un ordre sec, mais d'expliquer le sens de la règle. Le but ultime, c'était de favoriser l'acceptation profonde du protocole, sans jamais générer de culpabilité.
Pédagogie contre culpabilisation. En fait, ça me rappelle exactement la logique derrière les radars pédagogiques sur la route.
Ah oui, excellente analogie.
Tu sais, ces panneaux qui n'affichent pas d'amende, il n'y a pas de flash, mais juste un smiley vert souriant si on respecte la limite ou un visage rouge et triste si on va trop vite.
Ça responsabilise au lieu de punir.
C'est ça. Ça fait appel au sens des responsabilités. Sauf que, et c'est là que je bloque un peu, un radar, c'est un équipement électronique interactif. Ça réagit en temps réel.
Oui.
Comment un simple bout de papier statique sur un mur peut-il accomplir ce même miracle dans le cerveau des gens?
En fait, il y parvient en structurant l'information de manière vraiment chirurgicale. Les sources détaillent un parcours de lecture naturel, pensé en quatre étapes.
Quatre étapes pour une seule affiche?
Oui, conçues spécifiquement pour déjouer les défenses cognitives du lecteur. La première étape, c'est l'identification.
C'est-à-dire?
L'affiche expose une situation familière au stress, la hâte du matin, le stress de l'arrivée. Au lieu de pointer du doigt, elle dit implicitement On vous comprend, on sait que c'est le chaos le matin.
Donc ça désamorce le conflit direct. Le parent lit ça, il se dit « Ah, ils savent ce que je vis, ils sont pas là pour me juger ».
Exactement. L'empathie d'abord. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'explication simple.
Le fameux pourquoi ?
Voilà. Plutôt que de dire « faites ça parce qu'on l'a décidé », l'affiche explique les raisons de la règle. Elle traite le parent en adulte rationnel capable de comprendre la sécurité collective.
Ok, et après ?
La troisième étape, c'est l'action claire. Elle indique précisément quel est le bon réflexe à adopter face à la porte. Et enfin, la quatrième étape clôture le message sur une note rassurante et positive.
C'est un vrai voyage psychologique, en fait.
Totalement. Les parents passent d'usagers passifs qui subissent une règle fuyante à des partenaires actifs de la sécurité de la crèche.
Les documents le formulent d'ailleurs hyper bien. Il y a une phrase qui dit « Lorsqu'une consigne est comprise, elle est plus facilement respectée ».
C'est la base de l'adhésion.
D'accord. Sur le plan théorique, c'est brillant. Il n'y a rien à dire. Mais replongeons deux minutes dans la réalité de cette crèche le matin.
Dans le bruit et le chaos.
Mais ouais, on parle d'un hall d'entrée bondé, les enfants pleurent, les parents regardent leur montre, les doudous comptent par terre. Personne, mais vraiment personne, n'a le temps ni l'énergie de lire un essai philosophique sur la sécurité.
C'est évident.
Il faut que ce message passe en deux secondes chrono. Comment le design graphique réussit-il ce tour de force visuel ?
C'est là que la théorie rejoint l'exécution technique. C'est ce qu'on appelle en design la gestion de la charge cognitive.
Ok, on allège le cerveau.
Exactement. Dans un environnement chaotique, l'œil humain est complètement saturé d'informations. La créatrice a donc fait un choix qui peut sembler hyper contre-intuitif pour l'univers de la petite enfance, une base en noir et blanc.
Ah, oui. C'est vrai que c'est surprenant. Dans une crèche, en général, on s'attend à des couleurs primaires de partout, du jaune pétant, du bleu, du vert, des petits arcs-en-ciel.
C'est le standard, oui.
Pourquoi ce choix super austère du noir et blanc ?
Précisément pour créer une rupture visuelle. Le noir et blanc permet d'éliminer tout le bruit visuel. Ça tranche avec le reste du décor.
Donc ça attire l'œil parce que c'est différent.
Voilà. Et ça garantit une lecture fluide. En plus, ça confère une identité neutre, presque institutionnelle au message. En gros, ça dit à notre inconscient, attention, ceci n'est pas un énième dessin d'enfant affiché au mur, c'est un document sérieux.
Mais pour pas tomber dans le côté note de service des impôts, il y a ces fameuses illustrations dessinées à la main.
Oui, c'est le contrepoids parfait.
Les sources précisent qu'elles sont là pour apporter de la légèreté aux propos, rendre l'affiche plus humaine.
Tout à fait.
Par contre, je bloque sur un gros détail technique mentionné dans le dossier. Il est question de l'utilisation d'accents de couleur rouge.
Mmh. Disposés avec parcimonie, oui.
Voilà. Et surtout, il y a un grand cadre rouge autour de l'affiche pour qu'elle soit repérable de très loin. Mais là, franchement, l'experte en psychologie va devoir m'expliquer un truc.
Je t'écoute.
Le rouge. Dans le cerveau humain, c'est le feu stop, c'est l'alarme, le sang, le gyrophare, l'interdiction stricte.
C'est la couleur de l'urgence. Dans le concept de hiérarchie visuelle sans surcharge.
C'est-à-dire ?
Le rouge n'est pas utilisé ici comme un immense aplat de couleurs qui crie « interdit » ou « attention ».
C'est pas un panneau stop géant.
Non, c'est utilisé comme un surligneur stratégique. Imagine un peu les bandes lumineuses au sol dans l'allée d'un avion.
Ah ouais, dans le noir, avant le décollage.
C'est ça. Elles ne t'agressent pas visuellement. Elles guident simplement tes yeux vers la sortie.
D'accord. Donc c'est un outil de guidage, pas un outil de punition.
Exactement. Le cadre rouge capte la tension périphérique dans le tumulte du hall. Et ensuite, les petites touches de rouge à l'intérieur du texte, elles font quoi ? Elles guident l'œil du lecteur pressé directement vers les éléments clés.
Vers la solution, vers l'action à faire.
Voilà. Et la magie opère grâce à la combinaison de tous ces éléments ensemble.
Parce qu'il y a les dessins à côté.
C'est ça. Parce que ce rouge est associé à des illustrations toutes douces, avec des petits personnages humains sympas et à un texte hyper empathique, bah en fait, le rouge est neutralisé.
Et il perd son côté agressif.
Totalement. Il perd sa connotation de danger immédiat pour devenir un simple signal visuel qui dit « et information importante à lire ici ».
C'est un équilibre d'une précision millimétrée.
Le noir et blanc assoit l'autorité, l'illustration amène l'empathie humaine et le rouge dirige la lecture.
Et cette précision, cette justesse absolue dans le ton, en fait, on réalise qu'elle ne vient pas de nulle part.
Non, pas du tout.
En creusant dans les notes sur la genèse de ce projet, on découvre un détail qui change mais vraiment complètement la perspective.
Le contexte de la création ?
Ouais, cette affiche a été réalisée à titre gracieux par la conceptrice de Kaleidolink, ça on le savait, mais cette créatrice n'est pas juste une prestataire externe qui bosse depuis un bureau parisien.
Non, elle a une double casquette.
Elle est carrément maman relais au sein même de cette fameuse crèche Misty.
Et ça, c'est la clé de voûte de toute cette réussite.
Bah oui.
Nous ne sommes pas face à un consultant distant qui plaque des théories académiques sur une situation abstraite qu'il ne connaît pas du tout.
Elle vit le problème tous les matins.
Elle vit cette friction sociale au quotidien. Elle connaît les réalités physiques du terrain, le bruit, l'urgence de 8 heures, la pluie, tout.
Elle l'a sûrement tenue elle-même, cette porte, au début.
C'est fort probable. Et elle assiste aux échanges réguliers entre l'équipe éducative et les familles. Elle sait exactement de quel niveau de fatigue mentale on parle, et ce, des deux côtés de la porte.
Ce qui veut dire qu'elle comprend intimement l'embarras du parent qui ne veut surtout pas être mal poli, mais elle comprend aussi l'angoisse de la directrice qui voit une silhouette inconnue entrer dans son bâtiment.
Elle incarne les deux parties.
Et ça, ça m'amène à une réflexion beaucoup plus profonde. On a tellement tendance à réduire le design graphique à la pure esthétique.
Ah oui, faire des trucs jolis.
C'est ça. On s'imagine souvent que le boulot d'un designer, c'est d'ouvrir un logiciel de dessin, de choisir une jolie typo un peu stylée, de placer trois couleurs et de faire un truc visuellement sympa.
C'est le gros cliché.
Mais les conclusions de la conceptrice elle-même prouvent le contraire absolu. Le design, c'est en réalité un outil de traduction.
Tout à fait.
C'est une vraie technologie sociale pour résoudre des frictions humaines complexes.
Et si on tire le fil de cette réflexion, ça soulève une question hyper importante sur la nature même de ce métier.
Laquelle ?
L'implication personnelle de cette designer. Elle démontre que la compétence la plus cruciale en design, c'est pas du tout la maîtrise des palettes de couleurs ou des contrastes.
C'est quoi alors ?
C'est l'empathie. C'est cette capacité à se projeter de manière simultanée dans le cerveau de l'émetteur du message et dans celui du récepteur.
L'émetteur étant la crèche, qui a un besoin vital et non négociable de sécurité.
Exact.
Et le récepteur étant le pauvre parent hyper pressé qui a juste besoin qu'on ne le traite pas comme un criminel de bon matin.
Et le résultat sur le terrain, il est carrément transformateur. L'affiche ne fait pas que passer une consigne froide, elle harmonise toute la communication de la structure.
Ah, c'est sûr qu'avant ça, l'équipe devait improviser.
Tous les jours, des rappels à l'ordre maladroit du genre « s'il vous plaît, évitez de tenir la porte », ce qui crée forcément des micro-tensions.
Et là, l'affiche devient un bouclier émotionnel.
C'est exactement le mot.
C'est fascinant. Elle protège les enfants des menaces extérieures, ça c'est la base. Mais en fait, elle protège aussi les employés de la crèche.
Mais bien sûr.
Elle les soulage de ce fardeau terrible qui consiste à devoir faire la police en permanence, face à leurs propres clients, face aux parents.
Le personnel peut complètement se retrancher derrière le support visuel.
C'est pas moi qui le dis, c'est l'affiche.
Voilà, c'est l'affiche qui énonce la règle avec autorité, ce n'est plus l'employé qui a le mauvais rôle de gronder le parent. C'est une économie d'énergie relationnelle qui est immense pour ces professionnels.
Surtout que leur vrai métier, c'est de s'occuper de l'éveil et du développement des enfants, pas de faire vigile de sécurité à l'entrée.
Complètement.
Dis donc, si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient de parcourir depuis tout à l'heure, le cheminement est juste incroyable.
C'est clair.
On est parti d'une toute petite habitude matinale, un truc anodin, ce réflexe de surpolitesse qui consiste à retenir une porte sous la pluie.
Et on a vu à quel point ça pouvait être dangereux.
On a décortiqué ces fameux dangers invisibles, et ensuite on a exploré comment une solution élégante qui mélange la compréhension de notre psychologie primitive, la sobriété ultra calculée du noir et blanc, l'efficacité d'un cadre rouge pour guider l'œil, et surtout, une empathie viscérale issue du terrain.
Ouais.
Comment tout ça parvient à transformer une contrainte administrative super rigide en un vrai geste de solidarité partagée ?
Et la beauté de toute cette mécanique, c'est qu'elle s'applique bien au-delà des murs de cette petite crèche savoyarde.
Ah, mais totalement. On est tous concernés.
Nous sommes tous, que ce soit dans notre vie pro ou perso, sans arrêt confrontés à des protocoles de sécurité, des procédures ou des lois qui nous paraissent sur le moment absurdes, inutiles ou juste horriblement lourdes.
Ouais. Et notre premier réflexe naturel face à ce genre de règles froides, c'est presque toujours le rejet ou la tentative de contournement.
Jusqu'à ce qu'on prenne le temps de nous l'expliquer correctement.
Jusqu'à ce qu'un design vraiment intelligent ou une communication bienveillante nous fasse comprendre le fameux « pourquoi ». Et ça, sans nous infantiliser.
Et c'est à ce moment hyper précis que la résistance tombe et qu'on adhère à la règle. Ça prouve que face à un argumentaire visuel intelligemment structuré, nos automatismes sociaux les plus tenaces peuvent carrément être redéfinis.
C'est fascinant. Et c'est d'ailleurs ce qui me laisse avec une pensée un peu provocatrice pour terminer notre exploration du jour.
Ah, je t'écoute.
Sachant que notre instinct social nous pousse si facilement, presque aveuglément, vers la courtoisie immédiate, même quand on sait que ça détruit des systèmes de sécurité vitaux, la question c'est quels autres comportements prétendument polis de notre quotidien créent en ce moment même des failles de sécurité invisibles ?
Ah ouais, c'est une piste de réflexion qui donne carrément le vertige.
Pas vrai ?
Rien que dans l'environnement de bureau. On pourrait analyser la manière dont on partage un peu vite un mot de passe informatique juste pour dépanner un collègue qui galère.
Le fameux post-it sous le clavier.
C'est ça, ou la façon dont on laisse sa session d'ordinateur grande ouverte quand on va chercher un café, par peur de paraître méfiant envers son équipe.
Ah mais complètement. Ou encore, tu sais, le fait de bloquer la porte de l'ascenseur dans le hall de son propre immeuble pour laisser monter quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas, juste pour éviter un silence gênant ou de paraître mal poli.
C'est terrible de se dire ça.
Toutes ces petites brèches de sécurité, qui peuvent être hyper critiques, elles sont créées uniquement par notre désir instinctif de ne pas passer pour quelqu'un de désagréable.
C'est la force du contrat social. Hein.
Alors, la vraie question avec laquelle on repart aujourd'hui, c'est... Suffirait-il d'un peu de bon design, d'une explication empathique placée très exactement au bon endroit pour reprogrammer tous ces instincts-là ?
C'est un beau défi pour les designers de demain.
Est-ce qu'on pourrait un jour apprendre à fermer une porte au nez des gens, littéralement ou numériquement, sans ressentir la toute petite once de culpabilité ?
En tout cas, voilà de quoi regarder notre environnement quotidien et surtout nos propres réactions avec un regard totalement nouveau.
Ah ça, c'est certain. La prochaine fois qu'on posera la main sur une poignée de porte ou qu'on retiendra l'ascenseur, on va tous repenser à cette affiche de crèche.
Sans aucun doute.
Merci d'avoir partagé votre expertise sur cette belle analyse. On espère que cette plongée vous a tous donné matière à réflexion. Gardez votre curiosité toujours en éveil et on se dit à la prochaine pour une nouvelle exploration.